Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Soyez les bienvenus sur Europe 1 pour Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Nous allons passer une heure ensemble et pour commencer, nous parlerons du chant lyrique au cinéma à l'occasion de la sortie de Ténor.
Ah bah voilà.
Eh bah dis donc,
Victor enfin.
Mais Ténor à moi. On parle beaucoup de chant lyrique en ce moment. Il y a quelques semaines, c'était à L'Ombre des Filles avec Alex Lutz qui jouait un contre-ténor qui enseigne le chant lyrique dans les prisons. Et cette semaine, c'est Michel Larocque qui est prof de chant lyrique. Je vous raconterai tout ça dans quelques instants. Didier Allouche, notre correspondant à Los Angeles, nous livrera son cultissime JT d'Hollywood. Et puis j'aurai le plaisir de recevoir une comédienne aussi solaire que talentueuse. C'est Pascal Arbillot pour revenir sur la comédie. On sourit pour la photo. Vous aussi, les garçons, souriez un petit peu. Vous êtes filmés.
On sourit à la radio.
Mais aussi pour aborder les films de sa vie, dont celui qui l'a fait le plus rire, c'est Papy fait de la résistance. Enfin, mes flics ou voyous à moi, Franck Vallière et Victor Bonnefoy, sont bien là.
Oui, nous
sommes là. Nous parlerons de leur coup de cœur de la semaine, qui sont...
Les passagers de la nuit, oui.
Et il va falloir qu'on aborde le nouveau film du MCU, il va falloir qu'on parle de Doctor Strange, il va y avoir des choses à dire.
Il garde le suspense, il nous dit pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule.
Exactement.
On écoutera ça en fin d'émission. Voilà pour le sommaire de votre clap qui commence maintenant.
Clap sur Europe 1. Laurie Choleva.
L'amour est enfant de beau.
La 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 la.
Alors, le bulletin météo maintenant. Mauvais temps sur la France pour le restant de la journée.
Allez, faites vos vocalises, extrait du film À l'ombre des filles avec Alex Lutz actuellement au cinéma. Il est encore en salle. Alex incarne un contre-ténor qui accepte d'enseigner le lyrique à des femmes détenues. Ce qui nous emmène quand même à nous pencher sur le chant lyrique, la musique classique, l'opéra qui a souvent inspiré le cinéma. Cette semaine, c'est Michel Larocque qui est prof d'opéra dans Ténor. L'occasion pour nous donc de nous replonger dans les films de musique classique au cinéma. Et c'est toujours un plaisir. Évidemment, comment ne pas penser déjà à Diva, premier long métrage de Jean-Jacques Benex, avec Richard Bohringer, un polar virtuose, un opéra urbain à la mise en scène léchée, bercée par la sublime bande originale signée Vladimir Kosma. Vous êtes bien sur Europe 1 et non sur Radio Classique et c'est toujours Clap, votre émission cinéma.
Soudainement, gros changement.
C'était pas Cosma là quand même.
C'était pas Cosma, non évidemment.
Faut le dire, Vladimir est très doué mais quand même.
Mais c'était bien un extrait de Diva.
Il chante bien.
Alors si on parle de musique classique au cinéma, on pense aussi dans un autre registre au concert de Radu Mihailenu, l'histoire d'un homme de ménage, ancien chef d'orchestre du Bolchoï qui décide de réunir ses anciens copains musiciens pour se faire passer pour le véritable orchestre du Bolchoï et donner une représentation au Théâtre du Châtelet à Paris.
N'arrêtez pas, c'est magnifique.
C'est très beaucoup compliment pour moi. Maestro me dire les autres ne répètent jamais.
Je pense que répéter ma spontanéité.
Pas de répétition, du tout.
Pas répétition, mais pour nous, spontanéité, important. Musique, spontanéité.
Vous voulez dire que la technique du Bolchoï est tellement parfaite?
Et c'est la voix de Mélanie Laurent qu'on entend dans la bande-annonce. Magnifique film, l'humour de Radu Mihail. Exactement. Cette scène aussi de concert à la fin, elle est grandiose. On retrouve l'humour, la patte de Radu Mihailenu, je rappelle, le réalisateur de Train de vie, mêlé à la musique classique et l'univers de cet orchestre du Bolchoï. Ça reste un des films que j'aime beaucoup. Comment ne pas parler non plus de Farinelli de Corbeau, film somptueux qui raconte la véritable histoire du plus grand castrat de tous les temps, Farinelli, donc dans un 18e siècle méconnu.
Je crains, maestro, que vous ne compreniez pas. Avec son contrat, les frères Broski n'acceptent pas qu'on les sépare. Farinelli chante ce que je compose.
Avez-vous donc une si pauvre idée de la musique pour gaspiller ainsi votre voix à chanter des âneries? Sans musique, vous n'existez pas. Vous n'êtes qu'un animal sans couilles, ni homme ni femme. Votre voix est la seule justification de votre existence.
Génial ce film, alors bande originale encore une fois, légendaire. Et puis en parlant de légende, il y a celle de Wolfgang Amadeus Mozart, l'un des plus grands compositeurs de tous les temps qui a inspiré le grand Milos Forman.
Que votre majesté garde la partition, je l'ai déjà dans ma tête.
Quoi? Après une seule écoute?
Je crois que oui, sire. Oui.
Voyons cela.
Il y a un petit défaut là.
Avez-vous essayé? Ce ne serait pas un peu mieux si... Ou ça? Ça? Oui. C'est bon? Qu'en dites-vous?
Ça paraît tellement facile.
Exactement. Et film incroyable, cinéaste incroyable. Il faut rappeler que Milos Forman, c'est aussi Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est aussi un de mes films préférés de tous les temps. Et vraiment, je dis tout le temps film préféré, mais là, pour de vrai, qui est Man on the Moon avec Jim Carrey, qui est un film que je trouve
bien aussi.
Gigantesque. Et Amadeus, encore une fois, une fresque incroyable sur une rivalité, sur des jalousies dans ce métier, justement. Et on entendait la version VF. On parle souvent de la qualité des VF et tout. La VF d'Amadeus est de grande qualité, notamment la voix de celui qui joue Mozart. C'est Luc Hamet, un comédien talentueux qui était notamment la voix de Marty McFly dans Retour vers le futur.
Et puis pour terminer ce tour d'horizon des films qui traitent de l'opéra au cinéma, un mot sur Le Maître de musique, l'histoire d'un homme qui va consacrer sa vie à former une unique élève. Franchement, de la musique classique en début d'après-midi, un samedi, je trouve que c'est parfait.
Ah, tout très beau week-end qui commence.
Alors encore une fois, il est question d'enseignement, puisque si on réécoute et on se replonge dans tous ces films, c'est parce que cette semaine sort Ténor, où il est question d'enseignement et de transmission, puisque Michel Larocque interprète la professeure, Madame Loiseau, qui enseigne le chant lyrique à un jeune rappeur, Antoine, qui vit en banlieue, interprété par MB14, chanteur très talentueux révélé par l'émission The Voice. Elle va ainsi faire de lui, évidemment, un chanteur d'opéra.
C'est bon, Sushi. Je crois que c'est pas ta place ici.
Madame,
bravo, un lourd.
Pour le moment, celui dont la voix peut soulever des montagnes, c'est Didier Allouche qui est avec nous et qui nous livre son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. C'est déjà l'été à Hollywood. L'été des blockbusters, en tous les cas. C'est une tradition américaine. L'été, c'est la saison des énormes films de studio, des énormes machines censées attirer des millions de spectateurs dans les salles. Et elles en ont bien besoin, les salles. Un été qui commence en mai, ici, puisque le premier de ces blockbusters est sorti hier chez moi et depuis mercredi chez vous. Doctor Strange in the Multiverse of Madness est déjà un carton puisque mercredi, en un seul jour d'exploitation dans le monde, le film a réalisé 27 millions de dollars de recettes et ça c'est en un seul jour et sans l'Amérique. C'est donc déjà énorme. Puisque ces films sont gigantesques, leur promo l'est tout autant. Pour l'avant-première mondiale de Doctor Strange, Disney et Marvel ont réquisitionné une partie d'Hollywood Boulevard devant le Chinese Theater et le Dolby Theater, comme pour les Oscars. La projection du film a d'ailleurs eu lieu au Dolby, dans la salle des Oscars. J'y étais, la salle était pleine à craquer, ils ont eu la bonne idée d'inviter les fans, souvent déguisés, j'étais moi-même d'abord assis à côté d'un Captain America qui revenait de combat sans passer par la case douche. Du coup, j'ai changé de place et je me suis retrouvé à côté d'une Captain Marvel, c'était bien plus olfactivement agréable. L'ambiance était électrique dans la salle. Les fans hurlaient à chaque référence ou caméo marvelien. Et il y en a beaucoup dans le film. Une projection inoubliable. Mais pas aussi inoubliable que ce que j'ai vécu le surlendemain. L'avant-première mondiale de Top Gun Maverick. La suite de Top Gun, 36 ans après l'original, est d'abord un super film. Un vrai grand film américain comme on les aime tant. Un spectacle extraordinaire, une histoire béton, des personnages iconiques, un film top. Mais cette première, quelle folie! Et elle avait lieu sur un porte-avions, oui, un porte-avions, le USS Midway, amarré au port de San Diego. Le tapis rouge était disposé sur le pont supérieur, au milieu de jets et d'hélicoptères de l'Air Force. Toute l'équipe était évidemment là, et elle est énorme, l'équipe. Et bien sûr, il y a Tom Cruise. Cruise est arrivé en hélicoptère à la première, un hélicoptère qu'il pilotait lui-même et qu'il a posé sur le pont. Moi qui croyais avoir tout vu à Hollywood. Tom Cruise, c'est la grande classe. Pas seulement parce qu'il pilote son hélico, hein, mais parce que le monsieur a passé près de 3 heures sur le tapis rouge. Il a signé tous les autographes et pris tous les selfies que ses fans lui demandaient. Et il a répondu à toute la presse. Pas seulement les gros médias comme le font la plupart des acteurs en promo, non. Toute la presse qui était là a eu un sonore de Tom Cruise. Plus d'une soixantaine d'équipes de télé, de sites internet, de presse écrite. Il a parlé à tout le monde, il a été généreux avec tout le monde, faisant la blague avec les médias blagueurs, répondant sérieusement aux questions sérieuses, partageant sa cinéphilie avec ceux qui le lui demandaient. La très très grande classe, Tom. À Cannes, Tom viendra présenter son Top Gun, Cannes lui rendra hommage et j'aurai l'immense privilège et honneur d'animer une masterclass avec lui. Depuis cette première sur porte-avions, j'en suis encore plus impatient. Je sais que je vais avoir l'immense chance de parler cinéma avec celui qui est sans doute l'une des dernières vraies movie stars.
Merci beaucoup Didier pour toutes ces informations. Dans quelques instants, c'est Pascal Arbillot qui sera dans ce studio pour nous parler de la comédie On sourit pour la photo. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant sur Europe 1.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 cette semaine et on repart en vacances grâce à la comédie On sourit pour la photo et j'ai le plaisir pour parler de ce film de recevoir une comédienne que j'aime beaucoup, aussi solaire que talentueuse, c'est Pascal Arbillot. Bonjour Pascal.
Bonjour Laurie.
Alors merci d'être avec nous, on va parler de cette comédie qui fait du bien, qui donne envie de repartir en vacances. Peut-être que vous venez de rentrer de vacances, donc ça va vous rendre nostalgique. C'est l'histoire de Thierry, donc votre mari, qui est interprété par Jacques Gamblin, père de vos deux enfants, qui passe ses journées le nez dans le passé à trier ses vieilles photos de famille, jusqu'au jour où vous décidez de le quitter. Et là, Il a un peu, il a un électrochoc, on peut le dire.
Oui. Et d'ailleurs, je le quitte vraiment sans même le savoir deux secondes avant.
Oui.
Que c'est tout d'un coup, au détour d'une conversation.
C'est la fois de trop.
La fois de trop. Tout d'un coup, je suis sur un scooter, je l'amène quelque part, il ne sait pas où aller, il ne sait pas ce qu'on fait le soir, et je lui dis, je vais te quitter.
Très et calmement.
Très calmement.
Et très résignée.
Oui, très résignée. Mais je pense que ce n'est pas une volonté de... Ce n'est même pas une question de ne plus aimer, ou c'est juste qu'il faut sauver sa peau, et on le fait parfois de manière très instinctive. Et plus c'est calme, plus c'est grave d'ailleurs, c'est terrible.
Oui, c'est vrai.
C'est horrible, il vaut mieux. Il y a une chance quand on s'engueule de se rattraper, mais là, c'est terrible.
D'ailleurs, elle lui dit, le soir même, elle lui dit, non mais je vais vraiment te quitter.
Oui, oui.
Il ne la croit pas. Je ne vais pas changer d'avis.
Oui, parce que ça fait 20-25 ans qu'ils sont ensemble. Et lui, c'est peut-être il est à la retraite. Et puis il classe les photos. Il a peur de l'avenir, donc il vit dans le passé, dans ses enfants plus jeunes.
Et la nostalgie du temps qui passe, de ces petits moments aussi.
Une façon de contrôler le passé pour ne surtout pas voir la réalité.
Les enfants qui grandissent, qui vont peut-être partir prochainement.
Enfin. Ouais.
Qui sont partis d'ailleurs. Parlez-nous de Claire, votre personnage. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle?
Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'est pas. Je la comprends pas complètement. Et en même temps, c'est assez organique ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle le quitte. Et en même temps, quand il lui dit on part une dernière fois, elle lui dit mais c'est pas possible. En fait, elle part aussi, je pense, parce qu'elle va, elle, se fabriquer des souvenirs, les derniers peut-être, avec ses enfants qu'elle voit plus, qui sont ados. On a tous ça quand on a des enfants qui grandissent. On les voit toujours comme des bébés, mais ils s'en vont.
On a du mal à les laisser grandir, d'ailleurs.
Ouais.
Et c'est vrai qu'elle est forte, elle est quand même fragile à la fois. Elle est assez insaisissable.
Oui.
C'est vrai ce que vous venez de dire.
Oui, mais je pense qu'elle regarde le monde, elle regarde les autres, elle aime la vie. Mais après, quand on a passé un certain âge, quand on a vécu longtemps, on ne veut pas faire des choix majeurs et en même temps, on veut d'être lucide. Et oui, elle est étonnante.
Vous avez des points communs avec elle?
Un petit peu, je crois. Ouais.
Lesquels?
Elle est plus, peut-être justement, dans la capacité de...
D'aller de l'avant,
oui, quoi qu'il arrive. Avec un peu de moins en moins d'hystérie, de violence, je trouve. C'est-à-dire qu'elle me ressemble aujourd'hui, peut-être pas il y a 20, 30 ans.
C'est la Pascal Arbillot de...
Oui, c'est ça.
De 2022.
De la maturité. Angoisse.
Mais vous avez cette nostalgie du temps qui passe?
Non, je l'ai vraiment jamais eu. Alors, j'ai eu de la mélancolie, mais ça, c'est ce qui est très adolescente. Et là, aujourd'hui, je n'ai même pas le temps de l'être. Je n'ai pas envie de l'être. Après, je sais pas, oui, j'ai envie de bouffer la vie, mais sans me détruire. Souvent, à l'adolescence, on a envie de tout faire, mais on se brûle, on n'a pas conscience de ce qu'on fait, on se fait du mal, on croit que c'est ça aimer, on croit que c'est ça vivre, et c'est pas vrai. Mais je me lève le matin, c'est un éternel recommencement, mais c'est pas un ouais, cycle infernal.
Positive.
Oui.
Alors que c'est vrai que ce personnage, hein, qui est joué par Jacques Gamblin, lui, il vit complètement dans le passé, quoi. Il est resté bloqué.
Bah, il est resté, mais surtout, c'est qu'il classe des photos, il fait des albums.
Moi, j'avoue, je le comprends. J'adore ça. Oui.
C'est vrai.
Faire des albums photos, peut-être pas de façon.
Mais pas toute la journée, et pas aussi détaillé.
Voilà.
Et en allant même sonner chez son fils, qui lui, chez lui, tranquille, pour lui demander un petit détail sur une photo. Enfin, il est totalement. Mais c'est une névrose.
Il est obsédé.
Mais c'est la belle névrose que permet le cinéma. C'est-à-dire que dans la vie, un névrosé comme ça, je sais pas comment il finit. Mais là, au cinéma, ça se transfigure, ça lui permet à lui d'évoluer. Et surtout, je pense que ça permet aux autres, à tous ceux autour, au début de le rejeter et puis finalement de progresser, de se rendre compte que c'est de l'amour peut-être de sa part, c'est une peur de la vie de mourir. C'est beau, c'est pas juste une folie.
C'est aussi ça qui est beau dans
Il est extrêmement touchant d'ailleurs, Jacques Gamblin. Il est insupportable, on se dit mais qu'est-ce qu'il est. Et il est mais bouleversant, il est ravageant d'émotions.
C'est un premier long métrage de François Uzan.
Oui.
Pascal, comment est-ce qu'il vous a proposé le film? Comment est-ce qu'il vous en a parlé?
Oh ben, je crois qu'il m'a appelé, enfin, après c'est passé par mon agent, mais il m'a proposé le rôle en me disant Jacques Gamblin.
Ça faisait longtemps
déjà...
qu'il écrivait ce film.
Oui, ça faisait plus de 10-11 ans.
Il a mûri.
Et en fait, c'est parce que c'est un ami producteur qui est rentré de vacances avec ses parents. Il avait lui-même déjà 30-35 ans. Son père, à l'arrivée à l'aéroport, je sais pas où ils étaient, en Italie, lui donne de l'argent de poche. François dit mais à son père, mais ça va, j'ai 35 ans. On sait jamais, tu sais, on sait jamais. Et ça a commencé comme ça, il a passé des vacances géniales, mais en même temps quand même un peu régressive, un peu anormale à 35 ans. Et donc en rentrant, il raconte ça à un ami producteur qui lui dit « arrête tout de suite de parler et écris un scénario ». Et ça a commencé comme ça, il a mis du temps à le monter, à l'écrire. Lui-même est scénariste, très compétent. Donc c'était très intéressant parce qu'il m'a parlé comme scénariste d'abord, donc j'ai pu parler au scénariste aussi. Et puis après, c'était son premier long, et il a un tel amour des acteurs, il a un tel respect, et c'était merveilleux.
Le film a eu le prix spécial du jury au Festival
un carton
du film de comédie de l'Alpe d'Huez, c'est génial.
J'ai jamais vu ça, franchement, j'ai déjà vu pas mal de films, de temps en temps, quand même, depuis quelques années. Dis la fille qui dit pas mal, mais de temps en temps, pour pas non plus. J'ai jamais vu ça, les gens sont restés très très longtemps. On se prenait dans les bras, c'était fou. Ouais, c'était vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie.
Et surtout que généralement, avoir un prix au Festival de l'Alpe d'Huez, ça laisse quand même présager de belles choses pour la sortie du film.
Oui. En tout cas, c'est un bel
encouragement.
Bah, la comédie, ça touche le public. En tout cas, c'est...
Et puis surtout, cette comédie, parce qu'il y a ce rapport, il y a cette fratrie, il y a ce frère et le frère et la sœur, il y a les conjoints, il y a celui qui est un peu éternel ado aussi. Il se passe plein de choses, on peut s'identifier à
tous les personnages. Est-ce qu'on a été nous-mêmes enfants? Est-ce qu'on rêve peut-être d'être? Est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on aurait voulu faire? Les rapports frère-sœur? Oui, il y a de tout. Le beau-frère qui arrive, qui n'a pas la même culture, il y a une différence sociale de.
Et
en même temps, peut-être il est plus proche qu'on ne pense du père. Enfin, je trouve ça assez brillant comme scénario. Sous couvert d'être une comédie comme ça d'été familiale, c'est très, très, très écrit.
C'est
très dans le bon
juste.
Sens, comme les comédies de Broca, tout ça. C'est très écrit. Puis en voyage, on est à l'étranger, en même temps, dans une Grèce qui n'est pas du tout touristique. Qui est resté un peu dans son jus, comme est la Grèce parfois, dans certaines îles. C'était une île qui était à côté d'Athènes.
Oui, on a le côté carte postale. C'est pour ça que je disais, ça donne vraiment envie de repartir en vacances.
Comme l'année 90 un petit peu aussi.
Oui, aussi. Ouais. donc François Uzan, le réalisateur, dit, Pascal Arbiot et Jacques Gamblin, il dit que vous êtes les parents rêvés. Il a dit ça de vous.
Est-ce que c'est mon fils rêvé? Oui, mais j'en ai déjà un que j'aime.
Ah non, mais vos personnages, en tout cas, il dit que ce sont les parents rêvés. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Non, c'est moi qui ai mal posé la question.
Non, c'est moi qui ai pensé qu'on te parlait de moi et pas du tout du personnage. Non, c'est moi qui suis. Non, j'avais envie que peut-être, je suis contente que François Uzan aime Jacques et même moi aussi. C'est tellement bien. Et je l'aime infiniment. Donc c'est plutôt une déclaration d'amour inversée.
C'est plutôt réciproque.
Voilà, c'est ça. Bon,
alors donc vos enfants, s'ils reviennent comme dans le film, après une soirée très très
arrosée.
Épique et arrosée.
Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
Alors
j'ai ri. C'est mon frère, mon fils, c'est, faut pas que je le dise trop si jamais on lui dit. Bon, il s'est pris la première cuite adolescente, donc il est arrivé ivre mort.
À la maison.
Mais il était très drôle parce qu'il m'a dit, excuse-moi, ah, maman, vraiment, je suis désolée. Et il riait. Et donc moi, j'ai ri, je l'ai bercé, j'ai tenu la gamelle. Parce que, évidemment, voilà, il a vomi pendant 3 heures. Voilà, et ben, j'ai ri, et lui aussi, et...
On n'est pas fiers en plus après. Hein.
Non, il était tellement désolé, mais j'en ai vraiment pas voulu, quoi. Je lui ai juste dit la prochaine fois, fais très attention. Tant que tu ne m'appelles.
Ça va.
On fait des conneries, mais reste toujours joignable. Mais n'aie pas peur de m'appeler. Jamais. Je t'en dirai pas.
Ça, c'est très important.
N'aie jamais peur de m'appeler. Même si tu as fait la pire horreur, même si tu as. Non, je dirais pas.
Peut-être pas jusque-là. Mais quoique, vaut mieux quand même.
Quoique, hein. Bah si, appelle-moi, je suis là pour toi. C'est ça, hein.
François Usant, pardon, vous compare aussi à Fred Astaire et Ginger Rogers parce qu'il y a une scène.
Il est très très gentil, c'est vrai. On a bien répété notre tango. Mmh. Ouais, ouais.
Ça vaut le détour si vous voulez. Pascal Arbiot, oui, Jacques Gamblin, danser un joli tango.
Ouais, ouais. C'est très agréable de préparer. C'était. Et puis il y avait la photo derrière parce qu'on a fait vraiment on a fait des photos comme si on avait été une famille nous-mêmes il y a 20 ans. Donc on a reproduit beaucoup de scènes, dont une scène de danse, de tango. Donc on a vraiment fait, on a vraiment redansé le tango. Ouais, c'était. Ouais, elle est très belle cette scène, elle est très très belle.
Vous avez pris beaucoup de photos pendant le tournage?
Bah, aucune. Ah non, mais c'est terrible. Ah non, mais c'est horrible. Aucune.
Sur un film qui s'appelle On sourit pour la photo.
Bah, aucune. J'ai des pauvres photos sur la plage, mais pourries avec mon iPhone.
Mais vous êtes très photo en général ou pas?
Non, pas du tout. Mais j'ai aussi le père de mon fils prenait des photos tout le temps. Donc à un moment donné, c'est comme on se répartit comme ça les rôles. Bah, j'ai abandonné. J'ai
fait moi, je fais l'éducation et toi,
voilà.
Tu prends les photos.
Oui.
C'est bien, ça correspond bien au film.
Oui.
C'est quoi votre destination de vacances idéale?
Ah ben, un endroit que je connais pas.
Une découverte.
Alors ça, c'est pour moi.
Et la prochaine des découvertes, vous avez une idée en tête?
Ah là, bah justement, je suis dans les affres de où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais, est-ce que je vais dans le nord, l'est en ce moment, les pays, bon, c'est un peu
compliqué.
Moi, je rêvais d'aller en Sibérie, c'est drôle, mais bon, là, ça va être vraiment très compliqué.
Peut-être la mer, du coup, non?
Non, je rêve d'aller en Patagonie ou en Irlande. Je suis jamais allée en Irlande. Et en Écosse.
Ouais, voilà.
Pas mal aussi.
Bon,
hein.
Voilà,
il y a du choix.
Il y a des idées.
Il y a des idées.
Finalement, on sourit pour la photo, Pascal Arbiot, ou pas?
Mais toujours, il faut, toujours. C'est ça, le sujet aussi, c'est qu'on sourit, mais qu'est-ce qu'il y a les 10 secondes avant, les 10 secondes après, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça, comment est-ce qu'on interprète ce titre?
Bah oui. Oui, c'est ça, et en même temps, on est tellement heureux de revoir les photos qui sont des instants très figés, qui ne reflètent pas toujours la réalité. Et en même temps, il y en a une forme, forcément.
Ou même après coup, on revoit des photos et on se dit, tiens, c'est marrant, c'était bien.
C'était bien. En fait, j'étais heureuse. En fait, j'étais heureuse, ouais. Ouais, ouais. Même physiquement, on se dit, oh là là, on se trouvait. C'est fou d'ailleurs. On se voit pas, c'est toujours après, mais c'est pas une raison pour avoir envie de lyophiliser tout ça tout de suite. Il faut le vivre. Et puis de temps en temps, mais non, je suis pas une adepte de l'album, pas vraiment. Non.
C'est vrai que ça inspire, et c'est tout le sujet du film, ça inspire forcément beaucoup de mélancolie aussi. Et en même temps, ça fait plaisir de se replonger dans les souvenirs. Voilà.
Oui, mais ça donne envie de continuer, mais vraiment. Et d'ailleurs, on vit une période un peu nostalgique, on vit une période où on se dit, oh là là, avant, les années 80, les années 90.
C'était mieux avant.
Et ben, en plus, aujourd'hui, vraiment, et il faut pas que ça nous empêche d'aller de l'avant et de se dire que, parce que comme dit Jacques à la fin, ou en tout cas, c'est Boubou Legendre qui le dit, c'est le meilleur souvenir, c'est le prochain. Et il faut se battre aujourd'hui pour pas se dire que c'était mieux avant. Toute période, je pense, toute époque historique, c'est dit ça. Hein. Ben non.
C'est vrai.
Non. Il faut avancer.
C'est mieux demain. Enfin, ouais. On l'espère.
Sans être une tête de linotte, sans oublier ce qui se passe. Mais c'est ça le sujet.
Et puis surtout, continuons aussi à être connus. Enfin voilà, c'est un film aussi sur le couple, sur la difficulté aussi de vieillir ensemble.
Oui.
Et que c'est quand même une éternelle bataille pour que le couple tienne,
oui,
et pour que la famille tienne.
Oui, pour que la famille. Et puis c'est des tranches, c'est des moments. Il y a des moments charnières, il y a des moments où même les gens qu'on connaît finalement le plus, on se parle pas, on se dit pas les choses.
Et le temps passe vite.
Trop.
Mais nous, on a encore du temps ensemble, c'est ça la bonne nouvelle, Pascal Arbiot. Vous restez à mes côtés, on va parler des films de votre vie dans un instant.
Oui, ça c'est avec joie.
À tout de suite sur Europe 1.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous, c'est Clap qui continue. On parle cette semaine d'une comédie qui rend heureux, qui donne envie de partir en vacances, qui donne envie de se retrouver en famille et de passer du bon temps et de profiter du temps présent. Ça s'appelle On sourit pour la photo, ça sort le 11 mai au cinéma et j'en parle avec Pascal Arbillot depuis un petit moment dans oui. Clap. Remercie d'être là Pascal. Vous appréhendez la sortie de vos films en général ?
Ah non, pas du tout, je devrais peut-être. Non, pas du tout.
Non, pas forcément.
Non, pas du tout, parce que pour moi, c'est pas une échéance, c'est une continuité. Non, pas du
tout. J'ai envie de montrer au public.
Oui, j'ai envie. Et puis non, j'ai plus peur pour le metteur en scène, parce que je vois à quel point
il y a beaucoup d'enjeux.
Il y a un enjeu énorme, et qu'en fait, en une heure, un premier chiffre, paf, c'est plié.
C'est dur.
C'est d'une dureté terrible.
Alors, on va parler des films de votre vie, si vous êtes d'accord. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma.
Ben, si vraiment, je suis sincère, c'est Bambi, ma grand-mère. Une grand-mère que j'aimais pas trop, qui était assez méchante. Et donc, j'ai un nom déchet. Elle m'emmène voir Bambi très, très
en
jeune.
Plus.
Très petite. En plus, donc, j'avais la double peine. Et la mort de la mère de Bambi, je ne m'en suis jamais. Enfin, ça a été terrible. C'était vraiment un drame.
Mais c'est vrai qu'on dit que c'est un film pour les
mais
enfants,
ça
bien
passage,
sûr, mais
c'est pour.
C'est compliqué, quoi. Bah, on est confronté au deuil.
C'est terrible.
Cette scène, je crois qu'elle nous a tous fait pleurer.
Ah, c'est terrible.
Votre meilleur souvenir de cinéma?
En fait, j'en ai plein, évidemment.
C'était
très, très dur. Mais il y a quand même une scène. Ce que j'aime beaucoup,
c'est un bon souvenir.
C'est un moment qui est suspendu. Il y a une économie de dialogue, c'est le cas de le dire. C'est dans Out of Africa, où quand Robert Redford est allongé sur Meryl Streep et qu'il va l'embrasser et qu'il lui dit juste Don't move.
Magnifique.
Et ça, moi, je.
De toute façon, ce film, ce couple.
Ce couple. Et c'est ça le cinéma. Là, pour le coup, c'est rien n'est montré, tout est ressenti. Cette phrase, moi, elle m'a.
Elle est dingue.
Elle est dingue.
On a tous eu envie hein, de voir Robert Redford qui nous dit Don't move à un moment donné.
Bouge pas.
On va pas se mentir.
Ah, c'est dingue. C'est dingue.
Le film qui vous fait le plus rire.
Il y en a plein aussi. Hein. Franchement, ça a été dur. Mais je trouve que c'est un film de l'équipe des bronzés qui est bizarrement qu'on met moins en avant.
Que les bronzés.
Et c'est Papy fait de la résistance. Et je trouve qu'en plus, sur un sujet pareil, et aujourd'hui, moi, j'ai besoin de voir des comédies qui parlent quand même de.
Avec un fond derrière.
Voilà. Voilà, c'est Papy fait de la résistance. Il y a quand même des moments d'anthologie de Jacqueline Maillan.
C'est vrai.
Puis
cette équipe.
La chanson, non, je n'ai pas changé. Et puis, il y a une. C'est génial de Junio qui joue un milicien.
Oui, c'est vrai.
C'est dingue quand on y pense, c'est dingue. Et d'arriver à en faire rire.
Et à l'époque.
À l'époque, c'est fou, ce film est dingue, en fait.
Il y a quand même un paquet de films, hein, surtout, d'ailleurs, de l'équipe du Splendid qu'on pourrait plus faire aujourd'hui.
Non. Ah ben ça.
Elle est une ordure aussi,
terminé,
c'était audacieux.
Terminé.
Le film à regarder entre potes.
Alors, je me suis posé la question, il y a plein de. Et puis après, comme j'ai quand même pas mal de potes du métier, je me suis dit un film qui parle du métier.
Oui.
Intelligent, d'un metteur en scène que j'aime beaucoup, Woody Allen. Bah, c'est Coup de feu sur Broadway, qui est quand même un petit chef-d'œuvre.
Je suis un artiste et je ne changerai pas un mot de ma pièce pour accoler le public de Broadway, c'est clair ?
Tu dois faire ce que tu dois faire.
On peut monter la pièce !
Quoi ? Quand ? Comment ?
Un seul commanditaire finance tout le spectacle.
Quel genre d'entreprise, Nick ?
Du genre, dans les affaires des autres, viens pour fourrer ton nez, il sera pas cassé. Ouais. Ce genre-là, ouais.
Enfin, je trouve le pitch hallucinant. On voit une troupe de théâtre financée par un mafieux donc, qui impose dans le casting sa poule, quoi.
Oui.
Et c'est le garde du corps qui accompagne, qui tout d'un coup trouve que le metteur en scène, qui se veut un tout petit peu, un peu sérieux et mauvais, et tout d'un coup finit par lui vouloir défendre l'intégrité du spectacle et à finir par tuer, assassiner.
C'est génial.
La poulette de son patron parce qu'elle est trop mauvaise et tout ça et on regarde en même temps évoluer des personnages incroyables et une actrice vieillissante mais qui veut rester une star, Diane West, qui est extraordinaire, un acteur qui est au régime tout le temps et qui recommence à faire de la boulie, enfin c'est un petit chef-d'œuvre,
l'écriture,
mais un petit chef-d'œuvre, la jonction de deux mondes qui est une réalité toujours, en fait les financiers sont pas les artistes et les artistes sont pas tous des artistes, en fait, sont pas tous.
Ah ouais, toute cette industrie.
Le monopole de l'art. Ouais, non, mais c'est brillantissime. C'est un petit chef-d'œuvre.
Ça vous est déjà retrouvé Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver en tournage avec un metteur en scène que vous trouvez finalement mauvais? Sans citer de nom.
En tout cas, dont on sent que c'est pas bon.
Vous avez une déception, quoi.
Une petite déception. Oui, voilà.
Et là, c'est dur, parce qu'il faut rester pro et
Ah ben il faut et on n'a pas le choix et puis c'est notre métier, c'est voilà, c'est notre devoir, c'est voilà. Et puis parfois on peut être autonome, on peut jouer sans avoir besoin d'être dirigé. C'est triste mais on y arrive, bien sûr. Ouais.
Le film qui vous fait retomber en enfance.
Alors, oh là là, c'est un film qu'on voit, on a vu en famille à peu près, ouais, ça c'est vraiment une Madeleine,
c'est votre Madeleine de Proust.
Oui, j'aurais aimé du coup sourire pour une photo devant ce film en train de regarder avec mes parents. Bah, c'est Le Diable par la queue de Broca. Ah
oui,
qui est
d'une
poésie magnifique. Extraordinaire avec mon temps, pied plu.
Ouais, il y a des phrases.
Ah, c'est d'une poésie absolue.
Vous n'êtes pas ensemble?
Mais si.
Mais non. Tant mieux.
Dis pas ma belle. Pas la petite amie du bagagiste.
Non, du tout, c'est mon mari. Oh, je ne vous ai pas présenté. Georges ? Monsieur ?
Jean-Jacques Leroy-Martin.
Le comte de Coustie.
Enchanté. Non, non, madame, je vous en prie. Non, laissez, après vous.
Ah non, mais je le connais, mais par cœur, je l'ai vu tellement de fois. Oh, les grenouilles sont amoureuses. Mon temps qui fait... Ah non, mais c'est... C'est un monde clos, poétique...
Vous regardiez beaucoup de films en famille, Pascal ?
Oui, beaucoup, beaucoup. Mes parents m'ont beaucoup...
Ils étaient très cinéphiles ?
Ils le sont toujours, oui, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup.
Ils regardent tous vos films, forcément ?
Non, pas toujours.
C'est vrai ?
Oui, je leur en parle jamais, donc après ils me disent « Bah non, pas vraiment. » C'est drôle, je suis pas du tout...
Vous êtes pudique sur...
Oui, je sais pas, j'arrive pas à mélanger les deux encore. Mais alors, je leur ai demandé de venir voir En Souris pour la photo.
Quand même.
Ça, c'est la première fois que je leur dis « J'aimerais bien que vous veniez. »
C'est vrai.
Ouais, donc ils sont tout contents.
Donc, donc vous les avez invités à l'avant-première.
Oui. Oui, 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 oui.
Mignon.
Oui.
Le film qui vous fait tomber amoureux, amoureuse
bah là,
de son acteur.
Très récemment,
son acteur.
Mais là, Drunk. Bon, j'aimais beaucoup hein, déjà Matt Mikkelsen. Alors j'ai du mal à dire.
Mads Mikkelsen.
Mads Mikkelsen. Mais c'est pas possible.
Oui, c'est un film récent.
C'est récent.
Car,
mais...
bah, il a eu le César, il a eu l'Oscar aussi du meilleur film étranger.
Tout, je sais pas, il a tout en tout cas.
Il présenté
il a
à Cannes.
Mon amour, cet homme. Le film.
Le film est dingue.
Ce regard sur les hommes, c'est pas sur la... Voilà. Et c'est pas non plus l'apogée de l'alcool. Et surtout cet acteur. Acteur danseur.
La BO est
dingue.
Génial.
Et il y a en ce moment sur Twitter, parfois ça a des qualités Twitter quand on est abonné à des gens intelligents, intéressants ou des sites bienveillants. Il y a une petite vidéo sur Matt Mikkelsen qui répète la danse, la chorégraphie.
Ah oui.
Que je regarde ça tous les jours.
Ah bah c'est la vidéo qui met de bonne humeur.
Ah ouais.
Je vais regarder ça.
Ouais.
Votre comédie romantique préférée?
Bon, ben classique Notting Hill.
C'est un grand classique. Bah,
c'est un grand classique. C'est difficile.
Mais... J'avoue, on ne se...
Ouais, c'est difficile de faire... Ouais, c'est de voir les deux. Puis la rencontre de deux continents américains, de l'Angleterre.
Oui, l'Angleterre, les petits quartiers, les petites maisons, l'ambiance, Julia
puis
Roberts.
Ce plan, de plan séquence où les saisons passent. Il y a des moments à la fois de comédie, son copain, là.
Oui,
son copain qui est très drôle. Non, non, mais c'est... Ouais. Ça prend pas une ride, quoi.
Le film que vous conseillez à un enfant, Pascal Arbillon?
Je conseille pas, je conseille de le regarder avec un enfant. Enfin, je le conseille. J'aime bien les films, justement, pas pour enfants. Alors après, les Pixar sont géniaux parce qu'ils ont tellement de degrés de lecture, donc il y en a plein. Enfin, c'est magnifique. Soul récemment, c'est génial. Mais
et Miyazaki aussi.
Oh, bah non, mais c'est magnifique. Mais, To Be or Not to Be. C'est un objet complet, c'est à la fois de Lubitsch. Ouais.
C'est une... Mais alors, à quel âge, d'après vous?
Bah, moi, je l'ai vu très très tôt avec mon fils, il a adoré. Je m'étais dit, oh là là, il va pas comprendre, il a.
Bon, c'est très drôle, hein.
C'est très, très drôle. Il y a des moments, il y a des caricatures. Mon fils, je me suis dit, on a piqué un fou rire juste sur un officier nazi qui répète un mot absurde. Il est parti. On a eu un fou rire. Il avait 12 ans. Et en même temps, c'est un objet théâtral. C'est comme une pièce. C'est un vrai objet de cinéma. C'est en noir et blanc. Donc, c'est du cinéma. C'est du rêve. C'est très, très drôle. Et en même temps, le sujet est profond. Et moi, j'aime bien. Pour un enfant,
oui.
C'est parfait.
De les confronter quand même à des vrais sujets, à des vrais films. Vous lui avez montré beaucoup de films tôt à votre fils?
Oui, oui, oui. En le protégeant quand même, par exemple. Oui, oui. La liste de Schindler, je sais pas, des films très plus difficiles. Délivrance, je ne sais pas si... Voilà, qui est un film majeur pour moi, que je trouve extraordinaire. J'ai revu il y a peu de temps. Qui est un grand, grand film, Délivrance. Mais... bizarrement là,
pas trop jeune.
Non, mais surtout, il le fera tout seul. Mais moi, j'ai peur de lui montrer. Ça, c'est la maman qui a pas envie que son fils souffre.
Le film que vous avez le plus vu?
La Folie des Grandeurs. Mais je pense que c'est Kiff Kiff avec le Diable par la queue. La Folie des Grandeurs.
Ça fait partie des films que vous avez revus beaucoup de fois.
Et que là, j'ai vu avec mon film.
Yves Montand encore.
Bah, encore. Alice Appert.
Vous êtes plutôt fan d'Yves Montand.
Moi, je l'aime.
Qui ne l'est pas. Ça devait être Bourville, d'ailleurs, à l'époque. Ça devait être Bourville qui devait faire le rôle d'Yves Montand.
Ah, mais oui. Mais j'ai trouvé encore sur Twitter la lettre d'Yves Montand de refus. Il a refusé de faire le cavaleur de De Broca. Il lui explique pourquoi, parce qu'il trouve que les premières demi-heures est bien écrite, bien conçue, mais qu'après, la lettre est magnifique.
C'est génial.
Incroyable, incroyable.
Si je vous demande, Pascal, une réplique culte.
Alors, je me suis dit, j'ai essayé de vouloir en chercher une un peu originale et tout. Je me dis, allez, je vais trouver un truc. J'ai dit, arrête, atmosphère. C'est tellement génial.
Elle est géniale, cette
réplique. Elle est géniale. J'ai vu Les Enfants du Paradis avec mon fils. Et je m'étais dit, au bout d'un quart d'heure, il va partir. Il était fasciné. Ça, c'est un film à montrer aussi aux enfants.
C'est vrai.
C'est fascinant. Fascinant. Il n'a pas vu la deuxième partie parce que j'avais un peu peur. Pareil. Il faut qu'il voit la deuxième partie.
Vous avez découpé ça.
Oui. Mais
C'est très
extraordinaire. Extraordinaire.
La bande originale de film que vous écoutez pour vous le motiver, sport. Pour mettre de bonne humeur, pour faire du sport.
Oui, 8 Miles de Eminem. Il est assez implacable.
Et si je vous demande quel serait le titre du film de votre vie, vous diriez quoi?
Je ne trouvais pas, en ce moment j'arrête pas de dire ciao. Alors je dis ciao, ça me fait penser à un film de Billy Wilder, Avanti, c'est-à-dire ciao, oui. Ça peut aller ciao, mais je m'en vais, mais ça, je pars pas, mais je continue. Ciao.
Oui, c'est ça, c'est à plus.
Le titre italien, je trouve qu'il y a quelque chose de joyeux.
Ça sonne bien.
Ouais, c'est bien.
Mais j'allais dire quand même, nous on aime bien quand vous êtes là.
Oui, ok.
Donc ciao, ok, mais bon.
Ciao, mais je reviens.
Oui, c'est ça. C'est ciao pour mieux revenir. Ça, ok, on accepte.
Ouais.
Pascal Arbillot, je rappelle que vous serez à l'affiche Don Souris pour la photo aux côtés de Jacques Gamblin.
Le 11 mai.
Et tous vos enfants aussi.
Oui,
dans
tous les enfants. Pablo Poli, extraordinaire acteur.
Très, 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 très bon.
Agnès Hurstel, qu'on connaît, qui fait du stand-up, qui a fait une série géniale, ça s'appelle Jeune Égolerie.
Oui, c'est vrai.
Et qui est extraordinaire, qui est magnifique dans le film aussi. Vraiment.
L'entente, elle est arrivée tout de suite. C'est pas facile de créer une famille.
Oui, mais là, ça a été facile. Ça a été facile parce que, bon, après, on était dans un contexte compliqué. C'était la fin du confinement, mais on s'est soudés tout de suite. Et puis, de l'intelligence, de la gentillesse.
La bienveillance,
ouais,
en ce moment.
Ouais.
Je rappelle donc que le film sera au cinéma le 11 mai. Dans quelques instants, moi, je vous parle des films à voir ce week-end au cinéma. Merci à vous, Pascal Arbillot. C'était un plaisir.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap et vous tombez bien parce que maintenant nous allons parler des films à découvrir ce week-end au cinéma. Au programme, une histoire vintage qui mêle radio années 80 et Charlotte Gainsbourg, mais aussi le nouveau Marvel qui traverse plusieurs univers. Et puis on parlera d'une course fantastique à la recherche d'un amour. Et eux ne sont pas à la recherche de l'amour, non, puisqu'ils l'ont trouvé, mais seulement de films à vous conseiller. C'est déjà pas mal, c'est Victor Bonnefoy et Franck Vallière.
Nous n'aurons de cesse d'essayer de vous satisfaire.
Ah oui. Satisfaisez-moi.
Je parlais des auditeurs.
Ah mince, pardon. Désolé, j'étais perdu. Cette recherche d'amour.
Et on commence avec un très joli film. L'histoire vintage d'Elisabeth, tout juste séparée de son mari, un peu paumé, qui doit s'occuper de ses deux enfants, adolescents, et qui va trouver un petit boulot dans une émission de radio de nuit animée par Emmanuel Béard. Elle va également faire la rencontre de Talula, une jeune qu'elle prend sous son aile, qui est incarnée avec brio par Noé Habitat, qui était mon invité la semaine dernière. Un film qui nous plonge au cœur de la radio, de nuit même, des années 80, avec beaucoup d'amour et de mélancolie.
Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom ?
Talula.
Tu peux pas rester là comme ça. Tu vas venir à la maison.
Elle me touche, moi, cette gamine.
Et si tu n'existais pas ?
Tu ressembles à un petit oiseau, tu l'as jamais dit ?
Je vois pas du tout comment ma mère peut connaître ce genre de nana.
Et nous n'étions jamais les mêmes. Ces inconnus magnifiques. Ces passagers de la nuit.
La voix, la douceur, le charme, la sensualité, la Charlotte Gainsbourg, quoi.
Mais comment j'ai adoré ce film.
Moi aussi.
C'est impensable
aussi,
comment j'ai aimé ce film. Alors, ça parle des années 80 et du grand rêve du socialisme arrivé au pouvoir. Il y a plein d'images vintage des années 80. On est en plein dans les années 80, mais ça, c'est juste le décor. Pour le reste, c'est juste la vie. la vie de tous les jours, la vie d'une femme qui donc a été plantée par son mari et qui a planté ses enfants en même temps.
Qui doit se réinventer.
Qui doit se réinventer. Il y a à la fois beaucoup d'hommages cinématographiques, particulièrement au cinéma de Claude Sauté. Je ne dirais rien de la femme, mais le dernier plan dit beaucoup de l'affection que ce réalisateur Michael Hirst a pour Sauté. C'est un portrait de femme, un portrait familial dans une époque où on le constate aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus durci. On croyait encore et on avait de l'espérance, on avait beaucoup d'espoir dans des changements sociétaux. C'est arrivé pour certains, malheureusement pas pour tout le monde. Et du coup, il en reste une grande et belle nostalgie. J'ajouterais quand même que là, on entendait Joe Dassin, mais le mec a quand même placé un titre des Pale Fontaines, qui est un de mes groupes préférés dans le film. Musicalement, c'est génial. On est à fond avec eux. On est juste bien.
Comme on parle aussi du départ des enfants. Comment est-ce qu'on vit cette solitude. Oui.
Ça pourrait être une cousine, peut-être. Ça pourrait être une cousine de Romy Schneider dans César et Rosalie, par exemple.
C'est vrai.
Qui vit ces années 80. Alors attention, pas du tout sur le même mode que Sauté, mais quand même.
Moi, j'ai une passion pour Charlotte Gainsbourg, de toute façon.
Elle est parfaite. Les jeunes sont parfaits.
Allez le voir. On va écouter tout de suite ce que vous en avez pensé.
Génial. Là, c'est les années 80, quand moi j'étais ado et j'ai tout retrouvé. Les sensations. Non, franchement, c'est impressionnant.
Très beau, très émouvant. Ça m'a rendu nostalgique, mais une jolie nostalgie.
Vraiment, j'ai adoré. Charlotte Gainsbourg, je la trouve magnifique, lumineuse, y compris dans le chagrin. Et ça donne à réfléchir, en fait. On a envie de rester encore dans le film et de prolonger l'histoire, tout simplement.
Et comment, Victor ? Comment ne pas parler cette semaine de la sortie ? Attention, les fans sont bouillants, c'est Doctor Strange, The Multiverse of Madness.
Exactement.
Benedict Victor,
Cumberbatch.
Voilà, merci pour l'aide. Reprend son rôle pour une suite spectaculaire réalisée par Sam Raimi, ça on aime beaucoup. Le docteur Stephen Strange voyage dans l'inconnu et l'espace-temps pour affronter un nouvel antagoniste. Il va repousser les limites du multiverse pour veiller à la stabilité de l'univers.
Ah oui, tout un programme.
Que de responsabilités quand même.
Qui c'est qui fait la lessive pendant ce temps ?
Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir.
Je suis navré, Steven. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Les choses viennent de t'échapper.
Strange ! Fin du suspense. Qu'est-ce que Victor Bonnefoy a pensé de ce dernier Marvel ?
Eh ben, c'est pas mal. Soyons honnêtes, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, même le nom est bordélique, en fait, est un peu à l'image du film. C'est-à-dire que le film est aussi extrêmement bordélique. L'écriture est parfois trop longue, les plans sont parfois composés de manière assez étrange, et en même temps, soyons très honnêtes, je préfère 100 fois un Marvel qui va être extrêmement bordélique mais extrêmement généreux dans son bordel que certains Marvel extrêmement lisses qu'on a eu au cours des derniers mois, comme Les Éternels, comme Shang-Chi, qui sont des films où je suis rentré, je suis sorti, je m'en suis un peu foutu. Non, là, la vraie attente que j'avais, c'était le retour de Sam Raimi, donc réalisateur et créateur de Evil Dead, et puis même bien plus tard des Spider-Man, des trois premiers Spider-Man, j'avais hâte de voir ce qu'il allait faire dans le monde des super-héros, et il s'amuse. Il y a plein de moments où il a la possibilité de s'amuser, de citer justement Army of Darkness, le Evil Dead 3, il peut s'amuser vraiment avec des plans débulés, avec des gros travelling, même lui se laisse plus de temps au niveau du montage des scènes d'action pour composer des plans plus longs, pour justement avoir une action bien plus lisible que ce qu'on a l'habitude de voir chez Marvel, et ça fait plutôt plaisir. Après, soyons très honnêtes, ça c'est 30% du film, le reste du temps, ça blablate quand même beaucoup pour pas grand chose, et dès que ça se met à blablater, il sait plus trop comment tourner tout ça, quoi. C'est-à-dire, il nous fait des plans, des champs contre champs, et puis ça devient très vite plan. En reste quand même quelque chose, pour être tout à fait honnête, que je suis sorti du film, et ça fait longtemps que je l'ai pas dit sur un Marvel dans cette émission, donc je vais quand même le dire, je suis sorti du film en me disant, j'ai passé un moment sympathique. Voilà, j'ai vu des vrais instants de cinéma qui m'ont fait plaisir, j'ai vu des vrais instants de mise en scène qui m'ont intéressé. C'est dans le haut du panier de chez Marvel. La question qui se pose, c'est est-ce que le haut du panier de chez Marvel est le haut panier du cinéma ? Je suis pas vraiment certain, voilà, pour être tout à fait honnête. Il reste que, voilà, de tous les Marvel dont j'ai eu l'occasion de parler dans cette émission, c'est sûrement celui qui m'a le plus amusé, le plus exalté en termes de mise en scène. Après, il y a quand même encore beaucoup de défauts dans un bordel parfois un peu incompréhensible.
Et donc, on va tout de suite découvrir les premières réactions des spectateurs à la sortie des cinémas.
vraiment un bonheur, plus que ce que j'attendais. Genre, il y avait des trucs que je savais qu'ils allaient se passer, mais sinon, j'étais vachement content. Ouais.
J'ai bien aimé, ça allait très vite par contre.
C'était vraiment bien sympa. J'aime beaucoup aussi comment ça joue à certains moments avec des codes de films d'horreur, plus avec la touche d'humour. Tout était réellement bien équilibré.
Franchement, il est bien, il est surprenant, on s'attend pas du tout à voir ça. Surtout le jeu d'acteur de Benedict Cumberbatch et de Elizabeth Olsen, ça donne un plus au film.
Ouais, le film était sympa, ça change un petit peu, mais c'est parti dans un univers un peu différent des films habituels. C'est plus les petits super-héros, on peut plus regarder sans avoir compris.
Et puis dans un tout autre registre, le film d'Ève Deboise, Petite leçon d'amour, Julie trouve par hasard des copies et une lettre d'amour inquiétante dans un café parisien. Elle rattrape aussitôt le prof de maths et l'entraîne dans une course effrénée pour retrouver l'ado qui menace de se tuer par amour, une comédie légère et envoûtante avec au casting deux acteurs qu'on aime beaucoup, Pierre Delanonchamp et Laetitia Doche.
Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?
J'aime quand en classe tu frôles mes cheveux en passant derrière
moi.
Vous rendez compte ? Il y a une adolescente qui menace de se tuer pour vous ?
Vous auriez 15 ans, vous fantasmeriez sur moi, vous ?
Je sais pas, peut-être avec une bonne coupe.
Stop !
Neuf chez Balou à Montreuil ce soir.
Ils font une fête ce soir, alors qu'ils ont cours avec moi demain matin ? Attention !
Mais c'est pas Océane ?
Le pitch est original.
Ouais, c'est très mignon. Et en plus, Laetitia Doche est une actrice qui, comme dans le précédent film de Nin Antico, par exemple, qui s'appelait Play, je crois, dit quelque chose de son époque. Elle est très dans son époque. Mmh. Exactement comme il y a 20 ans.
Eh ben, dis donc.
Attendez, 20 ans?
Oui, 20 ans. Oui, 20 ans.
Vous êtes sûr?
20 ans.
Un peu comme il y a 20 ans, l'été dans La Nouvelle Ève, Karine Viard, par exemple. Donc, le film s'attarde sur, c'est une espèce de course-poursuite folle dans la nuit vers le bonheur de quelqu'un qui n'a pas choisi qu'on lui vienne en aide. Et ça dit aussi beaucoup en cela des choses de notre époque. C'est des gens qui n'arrivent pas à se faire du bien ou à trouver leur propre voie. Et du coup, ils se sentent utiles en essayant de rendre un service à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est symptomatique de notre époque aussi.
On écoute vos réactions.
Jolie histoire d'amour, un petit peu téléphoné, il n'y a pas trop de surprises, mais moi j'ai un petit fait pour les deux acteurs, donc c'est pour ça que je suis venue voir le film. Mais c'est une sympathique comédie.
Oui, j'ai bien aimé, ouais. Petite comédie sympa. Je ne paye pas de mine, mais c'est bien, quoi. Très belle actrice, et puis Pierre Delanonchamp aussi, ils jouent très bien tous les deux.
En fait, j'adorais, je trouvais que le scénario était bien ficelé, et puis l'histoire est mignonne, ça fait du bien.
Et pour terminer, Franck, rapidement, vous avez eu un coup de cœur pour Varsovie 83, une affaire d'État,
ouais,
drame historique.
Drame historique qui est tiré d'un récit biographique. Je vais vous faire le pitch parce qu'on ne va pas resituer l'histoire de la Pologne à cette époque-là, mais police politique en 83, une militante de Solidarnosc voit son fils arrêté arbitrairement, il va mourir. Procès, que se passe-t-il? Comment ça se passe? Et on a l'impression que ça s'est déroulé il y a 2000 ans, c'est le Moyen-Âge, ou presque. Et en fait, non, c'était il y a à peine 40 ans. C'est fascinant, c'est très très bien réalisé. Deuxième film entièrement maîtrisé, ça dure 2h44, on ne s'en tenu pas
même.
Une minute.
Ah bah voilà, merci de le préciser. Allez au cinéma, voilà, vous avez le choix, beaucoup de genres différents. C'est déjà la fin de ce clap, merci à tous les deux.
Déjà
Franck
fini
et Victor, déjà fini, mais
oh non.
La bonne nouvelle, c'est qu'on revient la semaine prochaine avec d'autres conseils. Aujourd'hui,
j'ai
je
peur.
Recevais Pascal Arbillot pour nous parler de sa nouvelle comédie, elle joue dedans, On sourit pour la photo, qui sera en salle la semaine prochaine. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec William Lémergie. Et en attendant, évidemment, allez au cinéma, plus que jamais.
Ben oui.
À bientôt sur Europe 1.
À bientôt.
Bon week-end.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.